Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode du podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clara Viguier, qui m'a beaucoup aidé sur un sujet particulier de son expertise, qui est la propriété intellectuelle, donc le fait de nous aider, nous autres indépendants, entrepreneurs, créateurs, à défendre nos droits sur les choses que l'on crée. Et du coup, je suis ravi d'avoir cette discussion, Clara, parce que je pense que c'est un sujet malheureusement très ou trop obscur pour beaucoup de personnes. Du coup, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Thomas, merci. Merci pour cette invitation, avec plaisir, bien entendu, d'être présente en tout cas pour cet échange.
Ouais, et j'ai hâte que tu éclaires nos lanternes un peu sur ce sujet-là. Ouais. Et pour commencer, ce que je te propose en tout cas, c'est de commencer par la question rituelle que je pose à tout le monde pour qu'on baigne un peu dans ton histoire et ton univers. Est-ce que tu peux nous raconter, Clara, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante, tu t'es lancée à ton compte?
Oui, alors donc effectivement, donc moi je suis avocate, donc en droit de la propriété intellectuelle, je suis avocate depuis 2015 à Paris. Je me suis toujours spécialisée dans cette discipline, donc on aura l'occasion de préciser un peu plus davantage en quoi consiste ce droit de la propriété intellectuelle. Mais bon, concrètement, c'est tout ce qui concerne la protection des marques, des créations intellectuelles et des innovations en tout genre. et j'ai toujours été attirée d'une manière générale par déjà par le biais de ma famille, parce que dans le cadre de ma famille, beaucoup de personnes évoluent dans un secteur culturel, dans le cinéma, dans la déco, dans la musique, etc. Mmh. Donc j'ai toujours baigné, on va dire, dans cet univers. Et dans le cadre de mes études, j'ai souhaité mixer, on va dire, ce que j'aimais, mes passions avec ce que je faisais, qui était le droit. Et donc c'est naturellement que voilà, je me suis plongée dans le droit de la propriété intellectuelle. Et donc j'ai fait mes études de droit, j'ai passé le concours du barreau pour devenir avocate, toujours en ciblant spécifiquement l'ensemble de mes expériences dans ce secteur-là. Donc je suis passée par une société de production audiovisuelle, par des différents types de cabinets, vraiment spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la musique aussi. Et à l'issue donc de la fin de mes études, donc notamment à l'école du barreau, je suis rentrée dans un cabinet de niche qui a une toute petite structure, mais qui est extrêmement spécialisée et pointue dans cette discipline. Mmh. Et donc par laquelle voilà, je me suis vraiment formée à la procédure, donc à la procédure contentieuse, donc devant les tribunaux dans cette spécialité, et puis également à la maîtrise du conseil pour accompagner tout type d'entrepreneurs, tout type de sociétés sur ces problématiques. Et par la force des choses, par la suite, j'ai eu envie, moi, quoi qu'il en soit, d'entreprendre aussi, puisque j'aimais bien cet aspect. Parce que mine de rien, quand on est avocat, on est aussi quand même prestataire de services. Ouais. Et il y a l'aspect communication, marketing qui joue beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et donc, c'est naturellement que j'ai souhaité monter mon cabinet et me développer à mon compte parallèlement. Et voilà. Et donc, j'ai monté mon cabinet il y a un an et demi maintenant. Et donc, dans le cadre de mon activité, j'accompagne vraiment tout type d'opérateurs, on va dire, que ce soit des sociétés qui sont d'ores et déjà bien établies, des créateurs, beaucoup d'entrepreneurs, et vraiment de tout secteur. Donc, secteur de la mode, secteur de l'audiovisuel, du tourisme, de la musique, cinéma, etc. Et c'est ultra enrichissant et j'en suis parfaitement épanouie, on va dire, dans le cadre du développement de ce cabinet.
Trop bien. Et il y a un truc intéressant que j'entends dans ton partage, qui n'est pas le cas de toute personne qui est à son compte et de tout freelance, c'est que tu as dit que tu appréciais particulièrement la dimension marketing, parler de soi, se valoriser. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Il y a plein de gens qui se lancent à leur compte et qui sont en mode « moi, je veux juste me concentrer sur mon métier et tous les trucs en plus à faire dans le fait de diriger une entreprise, c'est pas ce qui me plaît le plus ». Toi, c'est l'inverse. Toi, tu kiffes la partie autour de ton métier aussi.
Moi, j'aime vraiment les deux. C'est-à-dire que, alors, bien entendu, j'aime le droit, parce que sinon, je serais pas avocat. Je pense que je me serais reconvertie. J'aime beaucoup le droit, mais j'aime aussi tout l'aspect, l'aspect que les clients ne voient pas nécessairement, on va dire, dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est vrai, effectivement, la communication. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc par Instagram, par LinkedIn aussi, sur Internet. En participant à des podcasts comme le tien. Et en fait, ce que j'aime, c'est surtout essayer de sensibiliser les gens sur ces aspects juridiques. Parce que ce qui est compliqué, notamment dans le cadre de notre activité en étant avocat, c'est que par principe, les gens qui ne sont pas habitués, on va dire, à ces problématiques juridiques, considèrent l'avocat plutôt comme quelqu'un qui va vous défendre, mais uniquement lorsqu'il y a un problème et lorsqu'il y a un contentieux. Et là, en fait, moi, mon objectif, c'est plutôt d'être un véritable partenaire. Donc, c'est vraiment de collaborer avec mes clients tout au long de leur activité, donc que ce soit dès les prémices de leur activité, dès lors qu'ils commencent à se développer, etc. Et qu'ils comprennent que finalement, le juridique, c'est pas uniquement lorsqu'on a des soucis, que c'est pas uniquement, on va dire, des dépenses, mais que c'est également aussi un investissement, et de bien comprendre aussi comment on peut monopoliser là-dessus. Et donc, c'est vraiment essayer de... finalement de donner à mon métier, de ne pas être uniquement dans la production, alors bien entendu c'est quand même les trois quarts de mon activité, mais aussi toute cette part de sensibilisation et de communication qui est extrêmement importante pour faire comprendre aux gens que il faut parfois essayer aussi d'essayer d'avoir des réflexes juridiques pour prendre l'initiative de se faire conseiller et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la protection de leur activité, de leur création, etc.
Ouais, et tu touches du doigt un truc hyper intéressant qui, je pense, est malheureusement une sorte de mauvaise habitude que j'ai l'impression touche tous les humains, c'est attendre qu'il soit trop tard sur un sujet pour ensuite s'y intéresser. Genre, le moment où on prend plus soin de notre santé, c'est juste après être tombé malade,
Ou pareil, là, dans l'exemple que tu donnes, le moment où on s'intéresse le plus à, OK, est-ce que tout est bien carré juridiquement? C'est quand il nous arrive un truc pas hyper plaisant. Et c'est trop chouette que tu mentionnes ce truc parce que je suis assez d'accord que le pilier juridique de nos entreprises, c'est clairement pas le truc dans lequel la plupart des gens qui entreprennent vont mettre le nez au début. On va plus avoir l'énergie et l'envie de sortir notre offre, commencer à bosser sur, je sais pas, le site web, enfin les trucs très façade publique. Alors que, eh ben, y a plein de risques du coup auxquels on s'expose quand on prend pas le temps de vraiment plancher sur le pilier et le fond juridique. Et je trouve que c'est vraiment un truc de, voilà, c'est pas facile d'avoir cette prise de conscience de dire je vais investir du temps, de l'énergie et tout dans ce truc-là pour éviter des problèmes que je sais même pas s'ils vont se produire dans le futur, tu vois.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis surtout dans ce secteur-là, donc de la propriété intellectuelle, qui touche vraiment le cœur de tout business. C'est-à-dire
Ouais.
qu'on crée un produit, qu'on commercialise, on a envie de se distinguer de ce qui se fait sur le marché, on a investi pour concevoir ce produit, on a investi aussi du temps, de l'argent pour communiquer autour de ce produit, pour se faire connaître, pour se faire identifier de la part de ses clients. Je parle de produits, mais aussi toutes les offres de services, bien entendu. Et en fait, c'est important de prendre les devants pour essayer de parce qu'on a envie de le protéger, de faire en sorte qu'il ne soit pas copié, qu'il ne soit pas, ou même de valoriser au mieux aussi le contenu, les réalisations qu'on a pu réaliser. Et donc c'est l'intérêt justement de se poser ces questions sur le juridique pour savoir comment est-ce qu'on va négocier au mieux ces contrats pour ne pas se faire entre guillemets flouer par d'autres interlocuteurs, même si on est dans un cadre où il y a des très bonnes relations avec eux, voilà. Et puis aussi effectuer en amont des démarches pour les protéger au mieux, pour mettre en place tout un arsenal pour s'assurer que voilà, maintenant on est bien, on va dire, tout est cadré d'un point de vue juridique, et maintenant on peut se concentrer sereinement sur la commercialisation de nos offres de services et de nos offres de produits, tout l'aspect communication qui est réalisé autour, promotionnel, etc.
Ouais, parce que c'est vrai que je pense pour la majorité des gens qui écoutent ce podcast, et je pense qu'on peut même le défendre sur une énorme majorité des métiers de notre monde d'aujourd'hui, c'est des métiers qui dépendent à une grande majorité du temps de notre jus de cerveau, quoi, de nos idées, des compétences qu'on veut développer qui sont de plus en plus uniques et représentatives, que ce soit des compétences créatives, par exemple. Et que du coup, c'est ça la valeur de tout ce qu'on produit, en fait. La valeur de ce qu'on produit, c'est né de notre intellect, c'est né de nos idées, de notre créativité. Et effectivement, si ça a de la valeur, c'est important, je pense, d'apprendre à bien le valoriser, du coup, parce que c'est un sujet de se dire, bon, ben, en fait, je vais vous demander de me payer tant chaque année pour avoir le droit d'exploiter mes idées. Ça, c'est une pratique que pas tout le monde sait qu'on peut faire. Donc bien les valoriser et aussi bien les défendre, comme tu disais, ou bien les protéger, parce que on n'a pas envie que quelqu'un copie quelque chose sur lequel on a passé 15 ans de notre vie,
Ouais,
quoi.
c'est ça. Et effectivement, c'est vrai que par la notion de défense, en tout cas, je le vois de la part de mes clients, il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, mais moi, j'ai pas envie d'attaquer. L'idée, c'est pas, j'ai pas envie d'attaquer mon concurrent, mais par la notion de défense, c'est pas nécessairement toujours de saisir les tribunaux, mais c'est juste aussi parfois d'éviter une sorte, on appelle ça une sorte de dilution, c'est-à-dire que si on fait en sorte de, d'être unique, parce qu'on a envie de se distinguer de ce qui se fait sur le marché, et c'est pour ça que on crée un concept particulier, on entreprend, etc. Et si jamais, par la suite, en fait, on n'est pas vraiment attentif sur ces notions-là et on laisse faire et que tout le monde, soit reproduit votre propre concept ou la même marque, etc. Par la suite, il peut y avoir un risque aussi à long terme, vous, sur le développement de votre activité. Enfin, le
Ouais.
développement de l'activité de chacun, parce que, en termes de référencement sur Internet, si on se retrouve confronté, par exemple, à plein d'autres marques qui sont identiques ou similaires, en termes d'image aussi, de marque. C'est vraiment aussi tout l'impact de la, qui, enfin, voilà, tout l'impact que cela peut avoir aussi sur le développement de l'entreprise de chacun.
Ouais, bien sûr. Et en fait, ce que je pense, et une image en tout cas qui moi me parle là en t'écoutant, c'est que une de nos cibles quand on lance sa boîte et quand on entreprend comme nous, c'est de réussir à tailler de plus en plus notre place unique dans notre écosystème et sur notre marché. Et une fois qu'on a passé tellement de temps à faire ce travail minutieux de se tailler cette place unique à nous, ben on a envie de aussi la conserver, quoi, cette place. Et du coup, c'est toujours ce travail de comment je fais pour continuer de tailler un truc de plus en plus unique et quelque part créer des barrières pour que pas quelqu'un qui se réveille demain puisse faire exactement ce que moi j'ai mis 15 ans à faire en 2 semaines, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement
ouais.
ça.
Ouais. Je vais poser un truc intéressant, je pense, sur la table. Je suis très curieux de ton retour là-dessus. En tout cas, c'est que il y a beaucoup de personnes dans les gens qui écoutent ce podcast ou de débats qu'il y a dans l'écosystème freelance sur les réseaux sociaux et tout sur les gens qui copient. Donc, par exemple, les gens qui vont copier un post Instagram presque mot pour mot, presque avec les mêmes visuels, ou qui vont même prendre exactement les mêmes offres écrites et présentées de la même manière sur des pages de vente, etc., etc. Et ça, c'est un truc pour certaines personnes qui est émotionnellement très dur à vivre de se rendre compte de ça. Et moi, j'ai quelque chose que je me raconte souvent qui me fait du bien là-dessus, et en même temps, je pense qu'il m'incite pas à bien me protéger. C'est que je me raconte l'histoire que rien ne m'appartient vraiment. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je crée, quelque part, je l'ai appris de quelqu'un d'autre. De base, tu vois, je suis pas arrivé avec une espèce de idée fraîche qui ne vient de personne d'autre. J'ai appris des choses, j'ai hérité de choses de mon passé, de nos ancêtres, et je le recycle effectivement avec ma propre couleur pour recréer des choses qui sont genre mon interprétation de ce que j'ai appris. Et moi, de me raconter cette histoire que en vrai de vrai, au fond, rien m'appartient, ça me détend sur le fait que, bon, bah, en fait, si quelqu'un me copie, ce sera jamais vraiment pareil, déjà parce qu'on l'a hérité de quelque part, et en plus parce que bah, si ça passe par la couleur de quelqu'un d'autre, ce sera pas la même couleur que moi quand je le dis, quand je l'incarne, quand je le propose. Et je pense que ça me pousse pas à vraiment mettre le nez dans comment je me protège bien, quand même, parce que je pense l'équilibre est important. Voilà, je sais pas comment t'as envie de réagir à ça, mais...
Alors, déjà, le raisonnement que t'as, c'est un raisonnement qui est, entre guillemets, parfaitement juridique. C'est-à-dire que okay. nous, lorsqu'on est en défense, par exemple, que si je dois défendre un client dont on accuse, par exemple, qu'il aurait contrefait ou qu'il aurait copié l'un de ses concurrents ou un autre acteur, c'est l'un des arguments qu'on invoque sur le fait que finalement, bah, tout le monde, bien sûr, tout le monde s'inspire de tout, on va dire, quel que soit le secteur d'activité concerné. Alors, bien entendu, tu vois, par exemple, dans la musique, dans la mode, dans l'art, etc., bah, tout le monde s'imprègne de la culture, de voilà. Ouais. Mais il y a également aussi des modes. Par exemple, dans le secteur de, je sais pas moi, de la création de contenu, tu as des choses qui peuvent être relativement banales, c'est-à-dire que bah, le fait de la manière dont tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, tu as certaines modes qui sont voilà qui existent toujours sur les réseaux sociaux, ouais. Le fait de présenter, je sais pas moi, des posts Instagram de telle manière, le fait de présenter, de rédiger par exemple des posts sur LinkedIn selon une certaine structure, ouais. Et finalement ça c'est des choses dont qu'on ne peut pas s'approprier parce que c'est banal. Ouais. Donc ça, effectivement, lorsque moi, par exemple, je défends des clients, c'est la première chose que l'on va étudier, c'est à savoir, bah, finalement, est-ce que la personne qui est en face n'essaye pas de revendiquer quelque chose dont lui-même n'a pas la propriété parce que lui-même ne s'inscrit que dans les tendances du marché. On appelle ça, c'est le terme juridique. Okay. Donc c'est de s'imprégner de ce qui se passe. Après, là où on peut revendiquer des droits, c'est à la lumière déjà de tout le travail qui a été réalisé pour finalement se distinguer de ce qui existe déjà sur le marché et de proposer quelque chose qui soit particulièrement nouveau. Par rapport à ça, il y a deux types de droits qui s'affrontent. C'est d'une part, lorsque tu as une création ou tu as un concept, un projet d'une manière générale, on peut revendiquer par exemple du droit d'auteur, ouais. Sous réserve que ce que l'on revendique soit ce qui s'appelle original. Je m'explique, si jamais par exemple, on va dire par exemple dans la mode, tu vends des marinières, tu ne peux pas revendiquer de droit sur une marinière parce que tu n'as pas inventé la marinière. Ça, okay. C'est vraiment la tendance de la mode. Ouais. Par contre, si tu as fait en sorte d'innover pour proposer quelque chose qui soit particulièrement nouveau, donc sur cette marinière, tu as adopté une forme qui est parfaitement nouvelle, tu as ajouté dessus des broderies qui sont vraiment propres à toi et qui témoignent vraiment d'un certain effort créatif, auquel cas tu peux revendiquer des droits, non pas sur la marinière d'une manière générale, mais sur ce que tu proposes, toi. Donc, c'est cette marinière. Donc, si un jour, il y a quelqu'un qui vend exactement le même type de marinière que toi, effectivement, tu pourras t'y opposer. Et il y a l'autre chose qui est ce qui s'appelle plus généralement la concurrence déloyale et du parasitisme. C'est là où on va examiner finalement tous les efforts intellectuels et humains qui ont été réalisés par toi, par n'importe quel entrepreneur, pour essayer de, à partir de tes propres réflexions, de ton savoir-faire, de ce qui existe déjà sur le marché, pour proposer quelque chose qui soit parfaitement nouveau. Et ça, si tu as réussi à te faire connaître sous cette innovation, entre guillemets, lorsque je dis innovation, c'est pas uniquement d'un point de vue digital ou technique, hein, c'est une innovation par rapport aux normes du marché. Et si tu te rends compte que tu as un concurrent qui arrive et bam, qui fait un copier-coller ou qui propose quelque chose qui est proche du tien, mais sans avoir fait lui-même cette démarche, on va dire, de réflexion pour essayer de concevoir son propre produit ou sa propre offre de service, là, tu peux éventuellement aussi faire valoir tes droits.
Ok. Et comment est-ce que ça se justifie du coup ? Parce que les deux exemples que tu as donnés sont hyper intéressants. Il y en a un plus produit, où en gros, j'ai passé sûrement du temps manuel à créer quelque chose de unique et différent qui m'a demandé du temps d'idéation, du temps de test, du temps de remise en question, alors que quelqu'un d'autre l'a peut-être juste vu sur ma boutique en ligne et a refait la même chose derrière en mode « Ah, on veut ça !» Donc ça, c'est un exemple produit. Et il y a l'exemple, comme tu dis, qui est plus, je sais pas, sur du contenu par exemple. J'ai passé 2 ans à maturer tel truc, à lire je ne sais combien de livres et à suivre je ne sais combien de formations pour créer quelque chose qui n'a jamais été créé à la rencontre de deux disciplines, par exemple. Et hop, la semaine d'après, quelqu'un d'autre fait pareil. Est-ce qu'il y a des choses concrètes à faire pour justifier de ce travail de longue haleine? Est-ce que c'est, je sais pas, des documents, des notes, des choses qu'il faudrait qu'on garde sur nous?
Oui, alors par rapport à ces points-là, en fait, il y a un principe en droit, et c'est là-dessus en fait qu'on joue, ce qui est compliqué à examiner, c'est qu'on ne peut pas s'approprier un concept, une idée ou une thématique.
Okay.
Tu vois, par exemple, toi, Thomas, ce n'est pas parce que tu proposes un podcast qui est destiné à la vie d'indépendant, à l'entrepreneuriat, que tu peux empêcher tout autre acteur de proposer le même type de podcast.
Ouais.
Après, c'est finalement où est la limite entre quelqu'un qui propose le même concept que toi versus quelqu'un qui va vraiment proposer quelque chose qui soit pas nécessairement identique, mais qu'on compare les deux, on se rend compte que bah, y a eu plus qu'une simple inspiration et ça va, on pourra assimiler ça à du plagiat.
Okay.
Donc ça, c'est un peu la différence entre le droit d'auteur et le parasitisme. Et d'un point de vue preuve, entre guillemets, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces deux points, effectivement, le droit d'auteur, ça protège plus tout ce qui est produit. Il faut que ça soit quelque chose qui soit tangible. Donc ça peut être un épisode de podcast, ça peut être un podcast d'une manière générale, ça peut être une illustration, ça peut être un texte, tout peut être protégé par du droit d'auteur. Il y a pas de, mais il faut juste que ça soit tangible.
Ouais.
À la différence de du parasitisme ou de la concurrence déloyale et parasitaire, où là, c'est vraiment voilà, on va au-delà de la simple inspiration d'un concept ou d'une idée, et on s'est vraiment accaparé tous les efforts d'investissement humain et financier qu'un concurrent a pu mettre en place pour proposer son produit, mais son produit d'une manière générale.
Je sais pas
si je suis très claire, parce que c'est des notions qui sont un peu abstraites. Et d'un point de vue preuve, effectivement, en fait, moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est déjà, il faut avoir des preuves qui soient datées, quoi qu'il en soit. Parce que tant que c'est pas daté, c'est pas pris en considération. Il faut toujours que ça soit daté et il faut avoir, en fait, il faut conserver le maximum d'éléments. Donc déjà, tout élément qui viendrait à démontrer qu'on était le premier sur le marché.
Okay.
Donc, on appelle ça la date de divulgation. Donc, ça peut être soit par des posts qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, sur le jour où les offres de produits, de services, peu importe, où les contenus ont été mis en ligne sur Internet.
Okay.
À cet effet, on peut procéder à des dépôts alors qui ne montrent pas que c'est nécessairement protégé, mais c'est des dépôts, je ne sais pas, ça s'appelle l'enveloppe solo, par exemple.
Ouais.
Qui peut se réaliser sur le site de l'INPI ou auprès d'huissiers également, d'études d'huissiers, puis même dans la blockchain, dans le cas de la blockchain aussi. Tu peux procéder à des dépôts qui viennent en fait démontrer que toi, à tel jour, tu as divulgué ton offre de produit, enfin ton offre de service, ton produit, etc., qu'aujourd'hui tu revendiques. Et par la suite, de conserver également tous les éléments qui sont le fruit de ton travail. Donc, d'un point de vue créatif, ça va être, je sais pas, moi, toutes les esquisses, toutes les démarches créatives qui ont été entreprises pour concevoir, finalement, ce que tu proposes aujourd'hui. Mmh. Et puis après, ça va être toutes les réflexions que tu vas avoir, voilà. Et
ouais,
c'est vraiment se constituer un dossier. Et surtout, le plus important, c'est effectivement que ça soit vraiment daté.
Ouais, donc par exemple dans le cadre du podcast, comme tu le disais, imaginons quelqu'un d'autre en sort un qui s'appelle pas Young, Wild and Freelance, mais qui s'appelle Wild Young Freelancers ou une connerie comme ça. Il y a une sorte de guitare un peu similaire dans l'intro, il y a les mêmes questions. Enfin bref, il y a un univers très très similaire. Si moi je peux prouver que ben voilà, j'ai presque 100 épisodes, que le premier est sorti à telle date, que je montre, je sais pas, j'imagine toute ma base de données avec toutes mes notes de préparation de ces 100 épisodes avec les dates à côté, que je montre qu'à telle date, j'ai bossé avec une illustratrice pour faire les couvertures et que je retrouve les mails de, je sais pas, c'était 2019 du coup. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent venir alimenter ce dossier, c'est ça?
C'est ça, c'est
Ok.
ça. Et puis toi, dans ton cas de figure, ça sera également tous les éléments qui viendra démontrer que aujourd'hui ton podcast, il a acquis une visibilité.
Ok,
Donc ça
donc
va être
nombre de
montré,
gens qui le
voilà le nombre,
suivent.
voilà,
Ouais.
c'est ça, exactement,
Ok.
exactement. Et par rapport au nom de ton podcast, je ne sais pas si tu l'as fait ou pas, mais il est vivement conseillé aussi de le déposer parce que
Ouais,
c'est une
tout à
marque
fait.
ton podcast.
Bien
Donc
sûr,
voilà.
bien sûr. Ok. Et du coup, ça nous mène sur un des sujets dont je voulais parler avec toi. Il y a deux sujets que j'ai envie de traiter juste pour les gens qui ont commencé à nous écouter et qui se disent, ah, quand est-ce que ça parle de moi? J'ai envie de parler de la dimension. Je fais de la création pour mes clients et mes clientes, donc les gens qui font du motion design, des identités visuelles, etc. J'ai envie de parler de cette dimension-là et ça va arriver, je pense, après. Mais là, tant qu'on parle de je crée du contenu pour moi, donc je crée un podcast, une chaîne YouTube, des posts sur LinkedIn, tu disais, ainsi de suite. On peut déposer, comme tu dis, les marques de ça. Young, Wild and Freelance, c'est une marque. Les noms de nos podcasts ou des univers qu'on crée, on peut les déposer. C'est quoi aussi les autres réflexions qu'il y a là-dessus pour se dire comment je fais pour que mes contenus, pour que mes idées, pour que mes créations restent bien les miennes, alors qu'elles sont partagées sur Internet, et on sait très bien que sur Internet, des fois, elles sont repartagées à des endroits, on n'est pas au courant de tout. Enfin, c'est quoi un peu les bonnes pratiques pour ça, pour des gens qui sont créateurs ou créatrices de contenu?
Ouais, alors effectivement, donc par rapport aux bonnes pratiques, déjà la première des choses, ça serait si jamais, alors bah, je vais prendre ton exemple à toi. Donc tu as ton activité à côté et puis parallèlement, tu as cette activité de créateur de contenu, mais pour toi, pas pour des clients. Par rapport à cette activité de créateur de contenu, c'est tout dépend finalement de ce que tu crées comme contenu. Donc là, tu as ton activité de podcasting, podcasteur. Donc le nom de ton podcast, il faut, même si ce n'est pas le nom de ton activité d'une manière générale, c'est une marque parce que ça désigne, bah, les consommateurs identifient ton podcast, qui est un produit à part entière. Sous cette marque. Donc ça, il faut pas non plus en termes de marque, il faut pas réfléchir uniquement au regard de, bah voilà, moi j'ai mon activité principale qui est de, je sais pas moi, proposer des formations, proposer des, j'en sais rien, je dis des, voilà, ou j'ai déposé ma marque, et mais à côté, finalement, bah c'est bon, ma marque est bien protégée et j'ai rien d'autre à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des canaux de communication qui sont importants parallèlement et sur lesquels on communique par le biais d'une autre marque ou d'un autre nom, c'est bien de prendre, d'avoir le réflexe, en tout cas, de les déposer à titre de marque.
Ouais, donc chaque occurrence distincte,
Voilà.
même le nom d'une formation spécifique qu'on martèle
Ouais.
un peu dans notre communication, ça peut être ça.
C'est ça, effectivement. Même par rapport, effectivement, si tu sors, par exemple, une formation qui est propre, sur laquelle tu communiques par le biais d'un nom qui est spécifique, c'est intéressant de la déposer à titre de marque. Pourquoi? Parce que si jamais tu as un autre, je sais pas moi, quelqu'un d'autre qui propose des offres de services, des offres de formation, mais qui sont même pas nécessairement dans ton secteur d'activité, donc qui pourraient être dans d'autres secteurs
Bien sûr, bien
d'activité,
sûr.
et qui utilisent le même nom de formation que toi, bah ça peut être problématique. Alors même que tu communiquais déjà sur ta formation. Donc ça, voilà. Après, la difficulté par rapport à ça, c'est que déposer une marque, ça a des coûts, enfin c'est un coût. Donc, j'impose pas nécessairement de déposer tout titre, enfin tout nom, mais en tout cas, c'est de réfléchir à, voilà, est-ce qu'on a une stratégie de communication qui est vraiment fondée sur, bah voilà, sur un podcast, sur une newsletter, sur auquel cas, bah ça c'est bien de le déposer à titre de marque. Et si on a également des formations qui sont phares, de bien les protéger aussi à titre de marque. Tu vois, moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais conseillé une agence de publicité comme ça qui avait proposé trois produits phares sous des noms particuliers. On les a protégés tous par des marques parce que comme ça, au moins, voilà, ils peuvent communiquer dessus sans difficulté et sans se dire, ah bah mince, un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ce nom, même s'il y a une activité qui n'a aucun rapport avec la mienne.
Ouais, et comme tu disais, ça a des influences, par exemple, dans le référencement naturel. Si tu as un nom particulier dont les gens se souviennent et qui tapent ça dans Google et qui te trouvent pas parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont le même nom,
Ouais.
bah c'est dommage, tous tes efforts de com sont pas récompensés à juste titre alors que la personne s'en souvient, quoi.
C'est
Ce qui
ça.
est déjà dur à faire.
C'est ça. Et puis, il y a surtout aussi par rapport à l'image de marque. Tu vois, toi, par exemple, par rapport à ton podcast, bah, tu as une ligne éditoriale, tu as une réflexion derrière. Et si jamais, par exemple, il y avait quelqu'un d'autre qui proposait un podcast avec un nom qui soit identique, mais soit très proche du tien, peut-être que tu pourrais avoir, par exemple, des auditeurs qui se tromperaient. Qui ferait pas la distinction entre vous et peut-être que l'autre podcast serait moins abouti que le tien, ou même sans nécessairement que tu le justifies, hein, mais même si toi, à tes yeux, ça ne suit pas ta ligne éditoriale. Et après, en termes d'image de marque, bah, à long terme, ça risque d'être problématique pour toi. Donc, c'est vraiment aussi par rapport à ça que c'est important de protéger sa marque. Et puis ensuite, par rapport au contenu, alors ça, malheureusement, j'ai pas une réponse tranchée parce que c'est vraiment du cas par cas, mais ça va vraiment dépendre de. Je pense que mon principal conseil, ça serait de redire un peu ce que j'ai pu, voilà, ce dont on a pu discuter tout à l'heure, c'est-à-dire que conserver le maximum de traces qui sont propres. Voilà, peut-être se créer des dossiers propres à chaque contenu qui va être réalisé, avec bah voilà tous les éléments qui montrent bah, le travail qui a été conçu pour créer ce contenu, les investissements avec bah, conserver par exemple toutes les factures. Je ne sais pas si tu as fait appel à un illustrateur, un graphiste, quelqu'un qui aurait procédé à la réalisation de la musique, etc. Pour avoir en fait des preuves à pouvoir produire si jamais tu te rends compte qu'on venait à plagier ce que tu as pu produire. Et il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que tu sois en professionnel ou que tu exerces ça à titre accessoire ou même en qualité d'amateur, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu crées du contenu mais que c'est pas ton activité principale que tu ne peux pas agir, par exemple, contre quelqu'un qui créerait du contenu en qualité, enfin dans le cadre de son activité principale. Tu vois, toi, par exemple, cette activité de podcasting qui n'est pas ton, sauf si tu me diras si je me trompe, hein, mais qui n'est pas ton activité, entre guillemets, principale.
C'est pas ce pourquoi je suis le plus rémunéré, ça c'est vrai.
Voilà. Et si tu pourrais tout aussi faire valoir tes droits sur ce podcast que, je sais pas, moi, une chaîne de radio qui propose des podcasts, ou même un podcasteur qui est professionnel et qui ne vit que de son
Que de ça,
podcast. Voilà, donc on ne fait pas de distinction, on se fonde uniquement sur ce qui est créé et sur ce qu'on produit.
C'est hyper intéressant tous ces points parce que ce que j'identifie, c'est que ça demande une vraie rigueur aussi de se dire, ah tiens, ça a de la valeur pour justifier de telles choses, donc faut que je le garde, faut que je le range. Et je me dis, bon, ça c'est quelque part une des un des effets secondaires positifs, c'est que ça nous aide aussi à avoir une meilleure traçabilité et d'être plus rigoureuse et plus organisée dans nos entreprises, parce que c'est chouette de garder toutes ces traces en plus, à la fois pour des archives. Genre, qu'est-ce que j'aimerais aller ressortir les pistes de... Malheureusement, je pense que je les ai pas gardées, ou alors j'étais pas très bien organisé à l'époque et c'était sur un autre ordi ou un truc comme ça. Mais ressortir les traces des idées créatives pour les pochettes des podcasts, j'aimerais trop ressortir ça et refaire un post pour montrer le travail qui a été fait dans les 4-5 dernières années là-dessus. Mais malheureusement, je pense que ça, je l'ai perdu, tu vois. Mais ça demande une vraie rigueur d'organisation, en fait.
Après, l'intérêt du podcast, c'est que dans la mesure où, quoi qu'il en soit, il est diffusé, tu as
Oui,
toujours la trace.
c'est
C'est
vrai.
ce qui est plus difficile, c'est lorsqu'on fait par exemple de la création de contenu, lorsqu'on a un blog, lorsque lorsqu'on crée des contenus visuels. Là, c'est plus compliqué parfois de démontrer qu'à telle date il a été visible sur notre site internet ou qu'on a pu le communiquer dans le cadre d'une newsletter à des prospects clients, voilà. Mais après, moi, d'une manière générale, aussi, ce que j'aime bien proposer, en tout cas lorsqu'on vient me voir et qu'on me dit voilà, moi j'ai telle activité, qu'est-ce que je dois faire, c'est de faire bah, une sorte d'audit, de dire bah voilà, là votre activité c'est ça, ce que vous proposez parallèlement c'est ça, c'est ça. Bah on va faire la distinction entre tout ce que vous proposez. Sachant que bah, de la création de contenu, c'est des offres de services aussi. C'est que tu proposes de la valeur, tu proposes voilà. Et donc c'est de définir pour chaque poste, on va dire, d'investissement, qu'est-ce qu'on peut protéger, est-ce qu'il y a des démarches à faire et comment se prémunir par la suite de.
Ouais, de faire l'espèce de grand listing de tout ce qui est créé comme valeur intellectuelle par l'entreprise et aller voir, ok, chaque chose, est-ce que c'est possible de le protéger? Si pour l'instant non, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit possible?
Ouais,
c'est hyper intéressant comme travail. Je pense que ça introduit aussi une nuance que moi j'apporte souvent sur la dimension marketing, mais qui m'a l'air de faire sens aussi ici. C'est que dans notre communication, quand on partage nos créations au monde, que ce soit sur Internet ou par ailleurs, je vois souvent cette distinction entre des endroits où on est, entre guillemets, locataire et des endroits où on est propriétaire. Par exemple, LinkedIn, Instagram, les réseaux sociaux. En vrai, on n'est pas 100% propriétaire ni de notre profil, ni de notre page, ni de nos contenus, parce que l'algorithme change du jour au lendemain, les gens les voient plus. Si on décide de supprimer notre compte, bah c'est eux qui ont la main pour supprimer notre compte et on n'a pas grand-chose à faire après, à moins que ça dure très longtemps dans les litiges. Alors qu'à l'inverse, mon site internet, j'en suis propriétaire. Ces audios pour le podcast, oui, je les diffuse sur d'autres plateformes, mais je les diffuse aussi sur mon site, donc j'ai cette traçabilité. Et je trouve cette nuance, elle est aussi intéressante là dans le cadre de ce qu'on dit, c'est que il nous faut des espaces où on est davantage propriétaire sur Internet quand on diffuse ce qu'on fait, et pas que être sur des plateformes où on est entre guillemets locataire et locatrice.
Ouais, ça effectivement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces plateformes, alors on est effectivement soumis, par exemple, aux conditions générales d'utilisation, qui précisent, quelles sont les conditions d'utilisation de tout le contenu qui est mis en ligne. Mais si jamais, par exemple, toi, tu diffuses sur LinkedIn ton épisode de podcast, ce n'est pas parce qu'il a été diffusé sur LinkedIn ou même que tu diffuses un extrait sur Instagram et que tu te rends compte que quelqu'un d'autre viendrait à diffuser un épisode qui est quasiment identique au tien ou qui serait nature à porter atteinte à tes droits, tu peux, quoi qu'il en soit, aussi t'en prévaloir. Ce n'est pas parce que tu diffuses du contenu sur un réseau social que tu t'en perds la propriété.
Bien sûr.
Après, j'ai pas analysé en détail toutes les conditions générales, mais effectivement, par exemple, tu peux pas t'opposer à ce que Instagram mettre en avant, par exemple, ton contenu auprès peut-être d'internautes qui te suivent pas nécessairement à ce stade et donc auprès de nouvelles personnes, parce que ça fait partie justement des conditions d'utilisation. Donc il faut vraiment juste se dire que donc c'est bien effectivement de diffuser du contenu sur des sites ou en tout cas des sites, on va dire, qui te sont propres, où tu sais que tu as vraiment la main mise, mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas perdant si tu diffuses aussi du contenu sur des réseaux sociaux qui sont exploités par des sociétés qui ne t'appartiennent pas.
Ouais, bien sûr. Mais je trouve elle est cool, l'équilibre entre les deux.
Il faut effectivement.
Tu vois, si on va sur ces plateformes-là où on est entre guillemets locataire, c'est chouette parce qu'il y a plein de gens qui sont là-bas qu'on peut toucher du jour au lendemain, par exemple, si on a une publication qui commence à bien tourner. Et en même temps, ces gens-là, il faut aussi les ramener plus dans notre monde, sur notre site, dans notre newsletter, dans des endroits où on a plus le contrôle et plus la main, quoi.
Moi, j'avais eu un cas comme ça où une cliente c'était dans le domaine de la petite enfance et elle s'était faite énormément connaître sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et notamment sur Instagram, c'était il y a 2 ans. Donc elle communiquait énormément sur Instagram, elle était identifiée sous sa marque, etc. Et sur Instagram, tous ses posts, il y avait le logo de sa marque sur chaque post Instagram. Et c'était vraiment son principal canal d'acquisition de clients. Et en fait, donc elle avait déposé sa marque, elle n'avait pas fait, donc en matière de marque, il faut s'assurer de la disponibilité, la marque qu'on choisit, et elle n'avait pas fait cette recherche. En tout cas, elle n'avait pas fait cette vérification et donc elle s'était prise ce qui s'appelle une mise en demeure de la part de quelqu'un d'autre qui était situé à l'opposé en France, donc en soi, d'un point de vue territorial, elle n'était pas nécessairement concurrente, mais qui revendiquait sa marque. D'un point de vue juridique, la personne antérieure pouvait parfaitement le faire parce que elle, sa marque était protégée sur tout le territoire français. Et donc ma cliente, c'était problématique, on pouvait pas s'y opposer parce que les marques étaient quasiment identiques. Et ma cliente a dû procéder à un changement, enfin un rebranding, donc changer intégralement le nom de sa marque, tous ses supports de communication. Mais sa grosse problématique, c'est que elle voulait absolument qu'elle supprime tous les supports sur lesquels son ancienne marque
apparaissait, donc tous ses posts Insta.
Et donc tous ses posts Insta. Et en fait, pour ma cliente, c'était compliqué parce que c'était vraiment, là, elle perdait tout. Donc on a réussi à négocier, à faire en sorte qu'elle conserve tout. Mais c'est vrai que, en fait, dès lors qu'on a ce type de difficulté, si on ne vit, enfin en tout cas que les réseaux sociaux sont notre principal canal d'acquisition et qu'on a l'obligation, par exemple, de modifier toute sa com,
ouais,
ça peut être compliqué. À la différence de si on communique aussi, par exemple, sur son site internet, où là, on peut effectuer des modifications de manière plus simple, voilà.
Ouais.
Donc ça, c'était wow. Bon, c'est un exemple. Bon, finalement, ouais, ça s'est bien terminé entre guillemets, mais il fallait négocier quand même.
Mais c'est un exemple hyper parlant parce que dans l'exemple que tu donnes, tu vois, si elle met son logo et le nom de sa marque sur toutes ses publications, c'est en gros qu'elle a investi genre toutes ses ressources dedans, quoi.
Ouais.
C'était en mode tout est basé là-dessus et ainsi de suite. Et dans ce cas où, entre guillemets, malheureusement, c'est pas protégé autant qu'on le pense et qu'on l'espère, on se retrouve à tout perdre. Et effectivement, heureusement que les négociations se sont bien passées, mais j'imagine qu'il y a des cas où les négociations se passent moins bien. Bah, effectivement, c'est un coût, rien que émotionnel, qui est hyper fort, quoi, de se dire, putain, je sais pas, 2, 3, 4, 10 ans à investir sur ma com, sur Insta, et faire en sorte que les gens connaissent ce nom-là et l'associent à moi et mon travail. Et que ça disparaisse du jour au lendemain.
Bah, il y a multiples coûts. Alors, il y a effectivement le coût émotionnel. Il y a le coût
financier
qui est lié à la modification.
Refaire l'identité.
Refaire. Tu vois, par exemple, là, on parle de communication digitale. Mais lorsqu'on a aussi, par exemple, des boutiques, lorsqu'on vend des produits, c'est la dépose d'enseigne, retirer de la vente les produits parce que t'as des packagings qui sont revêtus de la marque, des choses comme ça. Et après, t'as aussi tous les coûts à venir pour le rebranding, donc réfléchir à une nouvelle marque.
Ouais.
Et puis aussi recommuniquer et sensibiliser ses clients sur le fait que non, il y a une nouvelle marque, mais c'est toujours nous derrière. Ça, c'est, tu vois, par exemple, moi, je trouve que l'exemple de vente privée entre vente privée et VP, il y a quand même eu un travail, tu vois, de rebranding pour faire comprendre aux clients que
c'est
VP,
la même chose,
c'était,
ouais.
Je pense que c'est un peu rentré dans les mœurs, parce que ça fait quelques temps, mais voilà, c'est des frais qui parfois peuvent être importants.
Ouais, c'est clair. Et puis, faut reconstruire tout, en fait. Et c'est vrai que, on revient sur un peu ce que j'essayais de dire au début, sur cette notion de risque de « j'essaye de ne pas payer le coût de bien me protéger au début parce que je me dis « bon, c'est pas nécessaire, etc. » Et puis la vie passe et on se retrouve avec des coûts beaucoup plus grands, autant émotionnels que financiers, que enfin toutes nos ressources, plus tard, juste pour éviter un petit coût d'investi au début, quoi. Donc, enfin ouais, des fois malheureusement le risque ça va et on vit rien et tout se passe bien, et des fois malheureusement on prend le seau d'eau glacée sur la tête, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, après la difficulté c'est que effectivement les investissements juridiques parfois ça peut être c'est surtout lorsqu'on entreprend, on a d'autres types d'investissements, donc c'est trouver le juste milieu. Et je pense notamment à ce qu'on indiquait tout à l'heure, lorsqu'on fait de la création de contenu, on va dire, à côté de son activité principale, c'est de ne pas tout déposer, de ne pas tout protéger nécessairement, mais en tout cas, trouver le juste milieu entre ce qui est vraiment essentiel pour notre activité et ce sur quoi on a vraiment envie de miser. Et puis, l'intérêt aussi, quand on protège bien, c'est que, après, derrière, on a quand même l'esprit tranquille. Et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est un peu comme les démarches administratives. C'est clair. Donc, après, on peut se concentrer pleinement sur toute la com, l'aspect plutôt marketing, etc.
Et du coup, je suis curieux maintenant qu'on passe de l'autre côté de la barrière, parce qu'on a parlé là de protéger les choses qu'on crée pour soi. Mais ce qui se passe pour la majorité des indépendants qui font leur mission, qui mettent tout leur jus de cerveau dans leur mission, donc qu'on soit consultant ou designer ou quoi que ce soit, on met son jus intellectuel dans ses missions. Qu'est-ce qui est possible pour protéger ce qu'on crée pour les autres? Parce que c'est pas exactement la même démarche, mais je sais notamment que pour les graphistes ou les photographes ou les vidéastes, ce genre de choses, il y a toute cette dimension de je crée quelque chose dont quelqu'un d'autre va avoir l'usage, mais ça reste quelque part ma création et ma propriété. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quoi les nuances là-dedans? Je suis curieux que tu nous expliques un peu.
Alors, par rapport à ça, moi, le principal point que je vois, c'est vraiment la négociation contractuelle. C'est-à-dire que dès lors qu'on travaille pour un client, il faut encadrer notre collaboration pour définir, parce que d'un point de vue protection, c'est un peu la même chose, quelle que soit la création. Tu vois, ça rejoint ce que j'indiquais tout à l'heure, qu'on le fasse à titre principal, à titre accessoire, qu'on soit professionnel, amateur, ça change pas grand-chose, on se concentre uniquement sur ce qui a été réalisé. Par contre, quand on a une activité, et que notre activité ne repose que sur de la création, à proprement parler, quelle qu'elle soit, hein, bien entendu, bah, finalement, on vit de ça. Mmh. Et donc, il faut vraiment être vigilant et ne pas partir du principe qu'on est un simple prestataire de service, mais il faut aussi être assez rigoureux et en tout cas assez protecteur de ce qu'on crée. Et donc, bah, de veiller à toujours contractualiser les relations avec les clients.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on crée un logo et qu'on se fait rémunérer, je sais pas moi, je connais pas vraiment les offres de prix en termes de logo, mais on va dire 500 € pour un logo, mais que derrière, en fait, on se rend compte, bah, c'est un peu l'exemple connu du logo, la virgule de Nike. La graphiste qui avait fait la virgule de Nike avait reçu une petite somme, mais derrière, aujourd'hui, elle pourrait être multimillionnaire ou même milliardaire si elle avait été rémunérée à la hauteur de tous les produits qui sont vendus. Donc, en fait, entre percevoir un forfait du fait de la réalisation de ce logo versus bah, demander en plus peut-être, par exemple, un pourcentage au titre bah, des produits, par exemple, qui seraient vendus sur ce logo, c'est pas nécessairement le même cas de figure.
Ouais.
Idem, si on crée si on réalise par exemple tout un reportage photo pour un client ou un reportage vidéo pour un client et qu'on autorise ce client uniquement à utiliser nos photos bah conformément à ce qui avait été convenu au départ, c'est-à-dire je sais pas moi pour présenter pour faire la promotion on va dire d'un événement de musique par exemple, mais que à côté de ça, s'il veut réutiliser ses photos pour en faire je sais pas moi des posters ou les réutiliser pour d'autres événements, bah dans ce cas-là, il faut qu'il rémunère encore le freelance versus un contrat où finalement bah le freelance il céderait purement et simplement tous ses droits et derrière bah il aurait plus vraiment de mainmise sur ce qui serait réalisé de ses créations. Et donc c'est en ça où pour moi vraiment le point principal c'est bon, déjà les négociations et réussir à contractualiser ça et être assez vigilant sur les modalités d'exploitation de nos créations par nos clients.
Ouais, ce qui est hyper intéressant parce que moi c'est quelque chose que j'essaye de faire valoir beaucoup dans les accompagnements qu'on fait, les formations, c'est de dire que le cadre de discussion au démarrage d'une mission, il est tellement important, alors que c'est une phase que beaucoup essayent de passer vite en mode « Ah c'est cool, le client a signé sans négociation, je suis trop content parce que j'aime pas négocier, ça me met mal à l'aise, j'aime pas parler d'argent », alors qu'en fait c'est hyper important quoi, pour être sûr que tout le monde consent à exactement les conditions qu'on pose ensemble, d'avoir cette phase de réflexion qui est finalement assez créative sur comment j'ai envie de vendre ça. Est-ce que je préfère être payé en une fois puis être débarrassé à tout jamais, j'ai plus besoin de discuter avec cette personne, ce que certaines personnes peuvent préférer, ou est-ce que je préfère peut-être toucher moins tout de suite et avoir un pourcentage, comme tu le dis, sur chaque impression où mon travail figure. Ce qui peut être un business model hyper intéressant où dans le temps et l'accumulation des clients, on a des parts variables qui reviennent de mois en mois, d'année en année. Enfin, c'est des business models qui peuvent être intéressants aussi. Et je trouve que voilà, si on squeeze cette phase de discussion du début, qui est hyper importante, on perd plein de choses et c'est souvent après, en plus que les missions se passent mal quand on va trop vite sur cette phase-là, quoi. Donc c'est trop cool que tu remettes le doigt dans à quel point ça c'est important, quoi.
C'est vraiment de mettre à plat, les conditions vraiment d'utilisation par le client, de tout les créations, de toutes les créations que l'on va réaliser pour lui. Donc ça concerne les supports. Est-ce que c'est uniquement pour des supports digitaux? Est-ce qu'il y a aussi des supports print? Est-ce qu'il va y avoir d'autres types de supports? Il y a les territoires. Est-ce que c'est uniquement, alors bon, maintenant avec Internet, il y a souvent le territoire monde, mais voilà, est-ce que ça a vocation à être représenté uniquement auprès de la France, mais ou peut-être éventuellement ça sera représenté auprès d'autres pays? La destination, tu vois, par exemple, si tu crées des vidéos, est-ce que c'est une vidéo, par exemple, tu as un business qui est vraiment dans le B2B et que tu crées des vidéos pour des entreprises dans le cadre de leur communication en interne? Est-ce que cette entreprise, dans ce cas-là, c'est uniquement, elle aura le droit de diffuser cette vidéo uniquement en interne auprès de ses équipes, ou est-ce qu'elle aura le droit aussi de diffuser cette vidéo sur son site internet, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas nécessairement la même chose, et parfois l'impact n'est pas nécessairement le même. Et après, tu as aussi la durée dans le temps, pendant combien de temps ils ont le droit de l'exploiter, et tout ça, finalement, il va y avoir des répercussions sur les coûts. Donc effectivement, est-ce qu'on prévoit uniquement un forfait? Donc c'est la majorité des cas. mais parfois il peut être intéressant aussi de revendiquer peut-être des royalties, donc c'est le pourcentage. Et si jamais on est face à quelqu'un qui n'accepte pas nécessairement de reverser des royalties, ce qui peut être compréhensible parce que ça demande voilà de l'administratif, il faut s'assurer que les comptes soient bien réalisés, etc. Ça peut être aussi un levier de négociation pour demander un forfait qui soit un peu plus important.
Ouais, grave.
Et il y a autre chose aussi qui est important à négocier, c'est en termes de communication, parce que par principe, lorsqu'on crée du contenu, on a ce qui s'appelle un droit de paternité, c'est-à-dire que toute personne qui diffuse, alors bien sûr avec autorisation, notre contenu, doit obligatoirement nous mentionner. Tu crées une vidéo, il faut créditer la vidéo. Tu cites une photo, il faut créditer la photo, etc. Et souvent, les clients, pour des considérations pratiques ou parce que en fait ils ont envie de proposer le contenu sous leur nom, n'ont pas nécessairement la volonté de mentionner le nom de toutes les personnes qui ont travaillé pour eux. Mais ça, voilà, c'est bien de le mettre à plat aussi dès le départ pour savoir dans quelles conditions finalement ce contenu va être exploité. Et enfin, il y a quelque chose aussi qui peut être assez intéressant, c'est de l'avoir à l'esprit, c'est par rapport aux modifications, aux adaptations qui peuvent être faites. Tu vois, si par exemple tu crées des supports visuels pour des supports promotionnels pour un événement, et si jamais par exemple le client souhaiterait modifier ses supports visuels pour les adapter à d'autres événements, de faire en sorte de voir ensemble si effectivement il a le droit de le faire par lui-même, auquel cas il faut l'autoriser, mais ou sinon voir directement avec lui pour que s'il a besoin de les modifier. Légalement parlant, il n'a pas nécessairement le droit, mais dans ce cas-là, il s'engage à faire appel à toi en priorité s'il a besoin. Voilà. Et donc, ce qui veut dire derrière une nouvelle mission par la suite. Voilà. C'est d'autant de choses qu'il faut... C'est bien, en tout cas, de mettre à plat l'ensemble de ces éléments pour pouvoir déjà entamer la collaboration et puis surtout faire valoir ses droits.
Ouais, et ce qui est hyper intéressant aussi en termes de, comme tu dis, de négociation et de facturation, c'est que plus on a connaissance de ces différents leviers juridiques, et plus on les intègre ensuite dans les conversations, plus on a de mainmise pour peut-être dire « Ok, je comprends que vous n'ayez pas envie qu'on ait le poids juridique, comme tu disais, de vérifier le chiffre d'affaires tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, pour me verser un pourcentage. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est que pour nous éviter ce travail futur, j'augmente ma facture de 2000 euros et on fait pas ça. Et comme ça, il n'y a pas de royalties et on fait tout en une fois. » Enfin ouais, il y a plein de leviers qui nous permettent ensuite de mieux valoriser nos créations et la valeur qu'on apporte à notre clientèle pour faire ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Et je pense que le fait de ne pas connaître les leviers avantage davantage nos clients que nous. Et du coup, c'est hyper important, je pense, pour nous d'apprendre à connaître tous ces différents leviers de négociation. Tu vois, un autre qui est pas juridique, mais qui est hyper intéressant aussi, que je mentionne souvent, c'est plus c'est urgent, plus c'est urgent, plus c'est cher. Si c'est pour demain, je fais un x2 sur mon tarif normal. Et un truc que je dis souvent à mes clients, c'est de dire, si ça te fait chier que ce soit urgent, continue de monter ton prix jusqu'à ce que ça t'enthousiasme de faire un truc urgent parce qu'on va tellement bien te payer que t'es content.
C'est exactement ça. Par exemple, tu vois, j'ai souvent des clients qui viennent me voir en me disant, mais combien je peux demander? Combien je peux valoriser en fait finalement le fait que je cède mes droits. Et il n'y a pas de réponse, c'est que ça dépend de plein de critères. Plus on cède ses droits, bien entendu, plus les clients, il va avoir des droits qui lui sont, enfin, et plus il va devenir propriétaire, on va dire, de ce qu'il a acheté, et donc nécessairement plus ça vaut cher. Donc c'est à dire que le prestataire peut demander plus d'argent. Au contraire, si la session est plus réduite, c'est-à-dire par exemple c'est uniquement pour une diffusion sur Instagram mais pas sur d'autres supports, ça sera peut-être un petit peu moins cher que si c'est pour tout support. Donc en fait, ça dépend vraiment, effectivement, comme de l'urgence, ça dépend vraiment de multiples critères.
Ouais, c'est hyper intéressant tout ça. Est-ce que, du coup, ça me fait me demander, parce que c'est très créatif, du coup, finalement, ce truc de tarification, on peut utiliser plusieurs leviers, peut-être proposer deux offres et on dit, soit tu choisis l'offre avec moins cher maintenant, mais plus de variables, soit l'offre où il n'y a aucune variable et plus cher tout de suite. Est-ce qu'il y a des limites qu'on a là-dedans ou est-ce qu'on est assez libre globalement de définir ce qu'on veut, je veux tel levier de droit d'auteur plus tel autre levier en royalties, enfin, tu vois. Est-ce que ça, c'est conditionné par la loi ou
On est libre, ça relève quoi qu'il en soit la liberté contractuelle. Après, la loi a tendance quand même à protéger les créateurs. Donc, c'est-à-dire que tu vois, si jamais, par exemple, tu as négocié des royalties, et que finalement tu te rends compte que tu avais négocié, je sais pas moi, 1%, et ça équivaut mais quasiment à zéro par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé par ton client, tu peux essayer de faire réviser finalement ce pourcentage parce que il n'est pas suffisamment adapté et proportionné au regard de l'étendue des droits qui a été cédé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable, mais c'est du cas par cas. Il n'y a pas de limite
de
à propre.
Globale, ouais.
Voilà. Ouais. Après, par principe, normalement, c'est les royalties qui doivent s'appliquer. Ça, c'est normalement, c'est la règle d'une manière générale. Mais d'un point de vue plutôt opérationnel, on reste libre. Tu vois, il y a quelque chose aussi qui se fait beaucoup, mais ça dépend plutôt des pratiques et des secteurs. Tu peux faire ce qui s'appelle aussi demander un minimum garantie. C'est-à-dire que tu vas obtenir au moment tu veux pas être uniquement tributaire du succès finalement de l'utilisation de ta création, parce que sinon dans ce cas-là, s'il y a pas de succès, s'il y a pas de vente, toi tu finalement t'auras un peu travaillé dans le vent.
Dans le vent. Ouais.
Donc en fait, tu peux demander en amont ce qui s'appelle un minimum garantie, donc c'est un forfait. Tu vois, être rémunéré 2000, 3000 euros, 4000 euros, peu importe. Et par la suite, réduire le montant des royalties que tu vas percevoir. Mais au moins, c'est un juste équilibre entre les deux. Donc après, ça dépend vraiment des cas de figure.
Ouais.
Et ça fait partie, justement, des leviers de négociation.
Est-ce qu'un exemple de ça, c'est, par exemple, on crée une vidéo pour diffusion sur différents canaux YouTube, etc., pour nos clients? Et eux, ils veulent mettre un truc de performance en mode tant de rémunération par vue.
Ouais.
Imaginons, ou par milliers de vues.
Ouais.
Et là, on pourrait dire, en dessous de, je sais pas, 10 000 vues, il y a un fixe. Et après, au-dessus de 10 000 vues, là, il y a des royalties qui s'appliquent.
Ouais.
C'est quelque chose comme ça?
C'est parfaitement envisageable. Ouais. C'est de dire, du fait de la réalisation de cette vidéo, il y a un forfait. Qui inclut aussi donc ce minimum garantie. Et puis à partir du moment où la vidéo, par exemple, va avoir, 15 000 vues, on va rétribuer 4% ou 5% des sommes qui vont être générées du fait de ces vues. Et on peut même dire, à partir du moment si la vidéo explose les records et qu'elle atteint 1 million de vues, le pourcentage va encore augmenter. Tu vois, c'est vraiment de la liberté contractuelle.
C'est trop intéressant parce que du coup, tu vois, quelque chose qui est intéressant en termes de négociation, c'est aussi comment je fais pour que les intérêts de mon client et mes intérêts à moi soient liés ensemble. Et ça crée cette espèce de dimension de, en fait, je suis pas juste là en train de faire un truc pour toi. On est une équipe, on a des objectifs communs et on gagne ensemble si on réalise nos objectifs communs.
C'est ça.
Ce qui peut nous pousser et l'un et l'autre à vraiment faire du travail encore plus qualitatif. Que quand on reste dans cette relation très commerciale de je suis client, je décide, tu fais le truc et je te dis quoi faire. Souvent, c'est pas les missions les plus épanouissantes, quoi.
Ouais, c'est ça, effectivement. Et il y a un autre point aussi que je rajouterais, c'est qu'il faut avoir à l'esprit, alors souvent les deux se confondent, mais que là on parle de royalties, de forfaits, mais c'est pas au titre du travail concret, réalise. Ça, c'est au titre de la session, du fait qu'on permet à notre client d'utiliser finalement nos créations. Mais c'est quelque chose qui doit être apprécié d'une manière séparée si on raisonne par exemple si on a un forfait jour, si on a un forfait heure, ou si on a une mission, on est rémunéré par un forfait au titre de la réalisation de la mission. C'est deux montants qui doivent être séparés. Donc c'est pas parce que le client nous paye par exemple 1000 euros pour travailler une journée et demie ou deux jours sur ou trois jours, peu importe, pour réaliser une vidéo, que à côté de ça on peut pas nécessairement demander, d'ailleurs ça devrait être l'obligation, mais enfin pour le client, qu'on peut pas demander en plus des sommes additionnelles du fait de la cession de nos droits sur le contenu concret.
Ouais, donc ce que j'entends, c'est que pour n'importe quelle personne qui fait une forme ou une autre de création, qu'elle soit sur un format, genre une vidéo, un podcast, un truc, une identité visuelle, ou même une prestation intellectuelle, de toujours avoir en tête un forfait ou un prix pour juste le temps de travail que je vais investir là-dedans, et un forfait royalties, pourcentage ou un prix pour le fait que notre client continue de l'utiliser dans le temps et que ce soit peut-être renouvelable chaque année, chaque trimestre.
C'est vraiment un prix au regard de la pure réalisation en tant que prestataire de service et un prix au regard de la cession des droits au profit du client pour permettre au client de l'utiliser ce qu'on a créé pour lui dans le cadre de son activité.
ce qui est hyper intéressant, je reviens sur cette notion de business model, parce que pour des personnes qui ont créé quelque chose une fois, mais qui est utilisé pendant les 25 prochaines années par une entreprise cliente, en fait, ça permet de valoriser plusieurs fois le travail fait qui continue d'être utile dans le temps. Et ça, en termes de business model, c'est génial d'avoir une forme de récurrence. C'est ce que je conseille souvent qu'on cherche dans ce qu'on propose, d'avoir de la récurrence, parce que c'est ce qui nous permet d'être stable, ce qui nous permet d'être prévisible, ce qui nous permet d'être plus sécurisé. Et un exemple, c'est le projet sur lequel tu m'avais beaucoup aidé et travaillé ensemble. J'ai co-créé une formation pour un client. Et l'utilisation du fait de continuer de diffuser cette formation sous leur nom et sur leur support, c'est quelque chose pour lequel, s'ils veulent continuer d'année en année à le faire, ils doivent me verser des royalties annuelles. Et ça, je trouve que, tu vois, pour moi en tant que créateur, c'est un modèle mais tellement épanouissant de me dire, imaginons j'en ai 15 comme ça, je sais que j'ai toute une partie de mon chiffre d'affaires qui annuellement a priori peut être assurée si la personne gagne avec l'usage de cette création et veut continuer dans le temps, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Hyper intéressant. Et je pense que, enfin, j'invite en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent ici et qui n'ont pas encore cette espèce de modèle mental pour leur tarification dans leur pratique à y réfléchir et se dire, est-ce que ce que je vends, je peux y intégrer une forme de cession, une forme de variabilité sous forme de royalties pour laisser les gens avoir le droit de les utiliser? Et si il y a moyen en fonction de ce que vous créez, réfléchissez-y, parce que ça peut être vraiment riche pour votre modèle.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis même si on négocie avec un client, on va dire, un budget global, donc qui est un forfait global, c'est quand même bien de faire valoir, en tout cas vis-à-vis de ce client, que ce budget inclut aussi quand même cette session.
Oui.
Pour sensibiliser aussi les clients sur le fait que on est quand même assez vigilant, qu'on a conscience aussi de la valeur de notre travail. Et puis d'une manière générale aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'il n'y a pas cette clause, vous savez, le prestataire cède ses droits sur tout territoire, etc. C'est vraiment une clause de cession de droit.
Ouais.
Tant que c'est pas matérialisé par écrit, légalement parlant, le client n'a pas le droit d'utiliser la création.
Mmh.
Donc si jamais il y a la moindre difficulté avec un client et qu'on se retourne contre son client, on peut lui opposer le fait que lui, finalement, il exploite ça. Même s'il a payé, il a réglé une facture, ça ne valait pas cession de droit. Donc, pas dans son droit.
Donc, ça veut dire que si on l'a jamais marqué noir sur blanc, ni dans nos factures, ni dans nos devis, ni nulle part dans un mail, quelque part, c'est quelque chose où on pourrait, théoriquement, en tout cas, après, bien sûr, il y a le jeu de la relation, la posture, etc. Mais théoriquement, on pourrait aller refacturer l'usage.
C'est ça.
Ok, trop intéressant.
C'est ça. Je te donne un exemple concret. Là, c'est une décision très récente dont j'ai pris connaissance cette semaine. Alors, ça peut être transposable, mais c'était par rapport à des influenceurs qui faisaient de la création de contenu, de photos, vidéos promotionnelles, etc. pour des annonceurs. Et en fait, ils avaient convenu dans la facture, et c'était passé par un intermédiaire, qui est une agence de pub. Et en fait, dans leur facture, il était indiqué que c'était uniquement de la création de contenu pour Instagram.
Mmh.
Et ils se sont rendus compte que finalement, les photos, elles étaient diffusées sur plein d'autres supports de l'annonceur. Et donc, ils ont agi et ils ont réussi à faire valoir leurs droits.
Wow.
Donc, ils ont pu percevoir, des sommes complémentaires. Mais ça, c'était... ce qu'ils ont vraiment mis en avant, c'était sur le fait qu'il y avait vraiment cette mention explicite, uniquement à destination d'Instagram. Donc, ça montrait bien que derrière, il y avait un manquement. Et donc, voilà. Donc, c'est l'intérêt quand même vraiment de mettre à plat les choses en amont pour éviter toute ambiguïté, toute discussion par la suite et de s'assurer qu'on collabore pleinement avec son client.
Ouais. Ça me fait penser à une peur, je pense, qui est présente pour beaucoup de personnes qui sont à leur compte et du coup, seules dans leur boîte. Qui me semble important de mentionner avant qu'on arrive sur les questions de fin, qui est il y a une question de poids de négociation, souvent, je pense, qui peut apparaître dans le fait que moi, je suis seul dans ma petite entreprise, VS peut-être une multinationale qui a un service juridique avec des équipes dédiées au droit dans leur boîte, ce genre de truc. Et je pense que souvent, tu vois, cet écart de poids, en fait, peut faire peur dans le fait de se dire « je vais aller dans un affrontement juridique parce qu'on... peut se raconter l'histoire, ça va durer des mois, ils vont enterrer tous mes trucs, je vais devoir mettre plein d'argent sur la table pour peut-être rien toucher derrière. Qu'est-ce que tu dirais pour annoncer cette peur, je pense, légitime qu'on peut avoir, je l'ai eu par le passé.
Je comprends parfaitement, c'est totalement légitime. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit bon, surtout plus les sociétés sont grosses, hein, plus elles sont sensibilisées à ces problématiques. Ils ont des secteurs juridiques, enfin, des services juridiques. Et c'est surtout dans l'intérêt du client. C'est vraiment dans l'intérêt du client parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, tant que si cette cession de droit n'est pas matérialisée et qu'on n'a pas, que le prestataire ou le créateur, en tout cas, n'a pas défini dans quelles conditions son client a le droit d'exploiter ses utilisations, le client, légalement parlant, il n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt aussi du client de lui dire, bah voilà, comme ça, on met en place, on définit en amont les conditions d'utilisation de la réalisation. Donc, ça peut être, bien entendu, sur tout support, ça peut être une, on lui donne complètement la faculté de pouvoir exploiter sa création comme il le souhaite, il n'y a pas de difficulté, mais au moins de le matérialiser et peut-être que, bah, comme ça, le prestataire peut mettre en avant le fait que il le fera explicitement mentionné sur sa facture, sur ses éléments contractuels. Ça peut rassurer le client parce que comme ça, il sait que derrière, au moins, il est pleinement propriétaire de ce pourquoi il a payé. Et puis de l'autre côté, du côté du prestataire de service, au moins, c'est bien matérialisé. Tu vois, moi, par exemple, là, c'est un litige qui a aucun rapport, mais je défends un client qui se fait attaquer en contrefaçon. Okay. Et en fait, il veut se retourner, entre guillemets, il a fait appel à un graphiste qui a réalisé le contenu pour lui. Et il veut, du coup, se retourner contre son graphiste en lui disant, c'est toi qui as réalisé le contenu pour moi et aujourd'hui, je me fais attaquer en contrefaçon. Et donc, en fait, on a repris tous les éléments. Donc, on a repris les factures, Et en fait, il n'y a aucune mention qui stipule le fait que, mon client avait le droit d'utiliser les créations de ce graphiste. Il y avait juste la mention réalisation de 3 illustrations pour tel montant. Et donc, en fait, aujourd'hui, mon client, il peut pas se retourner contre le graphiste parce que, en face, on va lui dire, oui, mais vous faites valoir une facture, mais rien ne montre que vous pouviez les utiliser. Et donc, en fait, il se retrouve un petit peu démuni et il va devoir se défendre sur le fait qu'il a vendu des choses qui sont peut-être, effectivement, contrefaisantes. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt aussi des clients que tout soit bien matérialisé. Derrière, ils en soient pleinement propriétaires et qu'ils puissent. Donc, c'est un argument. Il faut qu'on ait prestataire de service. Déjà, il faut pas se dire qu'on est le petit versus le client versus peut-être le gros. Et donc, on n'a pas notre mot à dire. C'est juste de de faire état du fait que c'est mettre à plat les conditions de la collaboration.
C'est dans l'avantage de tout le monde.
Voilà, pour que ça figure sur tous les documents contractuels, factures, devis, conditions générales, etc.
Mais je pense que du coup, là où il y a une différence de poids aussi, c'est dans la connaissance du coup. Enfin, tu vois, le projet sur lequel tu m'avais aidé, je me souviens que dans la démarche, c'était on a convenu du truc, je leur ai fait mon offre, j'ai vendu la chose. Et là, leur service juridique m'a envoyé leur contrat.
Ouais.
Tu vois ? Et moi, c'était la première fois, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que j'avais jamais encore vendu un truc avec des royalties. Et tu vois, genre recevoir un énorme contrat de, je pense qu'il y avait une dizaine ou une quinzaine de pages, savoir qu'il y a peut-être 5 personnes derrière qui ont fait ça déjà 15 fois et toi, c'est la première fois. Je pense qu'il y a un truc déjà bêtement émotionnel de « Oh, je sais pas quoi faire !» Ce qui fait que j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de écart de force, tu vois, qui se joue et qui fait que même si, tu vois, moi je sais, ça fait sens de poser et que tout soit bien clair, ça fait sens de bien checker les trucs pour être sûr que c'est pas à notre désavantage. Je pense qu'il y a malheureusement encore l'espèce de faille que certaines de ces grosses boîtes exploitent pour se surprotéger. Et du coup, c'est parce qu'elles veulent se surprotéger et limiter leurs risques. Mais où des fois, ça peut être malheureusement au désavantage de la personne qui crée quand elle est seule et qu'elle n'a pas les ressources d'un service juridique.
Ouais, bien sûr. Après là, c'est effectivement souvent quand on est dans ce cas de figure, il y a effectivement donc là, lorsqu'on est face notamment à un client qui a une certaine importance, eux, ils ont des contrats. Ouais. Après, par exemple, tu vois dans ton cas de figure, c'était un contrat avec des clauses qui étaient très larges.
Oui.
Donc c'était l'intérêt aussi quand même d'avoir prendre connaissance de ces clauses pour bien réduire le scope de la cession. Après, si jamais on est face à quelqu'un qui a pas nécessairement de contrat, enfin de client qui n'a pas nécessairement de contrat, on n'a pas nécessairement besoin non plus de rédiger, de passer dans un formalisme avec la rédaction d'un contrat. Alors, c'est toujours conseillé parce que plus il y a des contrats, mieux ça encadre. Mais si on veut s'épargner ces formalités administratives, c'est juste de faire état d'une mention qui soit explicite sur le devis, sur la facture, et au moins ça permet de limiter toute difficulté et surtout difficulté d'interprétation.
Ouais, bien sûr. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu nous as partagé là, c'est que passer du temps sur le fait de bien expliciter tous les contours de la collaboration, c'est pas pinailler, c'est pas une mauvaise chose, c'est un super truc pour faire en sorte que tout le monde sache où est-ce qu'on en est, où on se positionne, ce sur quoi on est d'accord et que la collaboration démarre de la meilleure des manières, quoi.
Ouais. Et puis il faut aussi se dire que plus on est on entame des discussions sur ce point, puis ça montre aussi qu'on a un côté, alors je vais pas dire qu'on n'est pas professionnel si on le fait pas, mais en tout cas ça montre qu'on est sensibilisé.
Ouais, on sait ce qu'on fait, quoi.
Voilà. Et donc sauf à tomber sur un client qui est vraiment de mauvaise foi, ça peut interpeller aussi sur le fait que, ah oui, effectivement, on est face à quelqu'un qui, voilà, qui a conscience du travail qu'il réalise, de la valeur aussi du travail qu'il réalise, et bah effectivement ça se discute, et je peux pas non plus utiliser son travail comme je le souhaite. Donc c'est un signal en tout cas qui peut être intéressant aussi lorsqu'on est prestataire de SaaS.
Ouais, de ouf. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé là. Hyper précieux, et même moi ça me donne plein de billes que j'ai envie de continuer d'intégrer dans le fait de mieux protéger encore tout ce qu'on crée. Est-ce que ça te va qu'on arrive sur les petites questions rituelles de fin de conversation, ou il y a un truc brûlant que tu veux rajouter avant qu'on clôture?
Non, on peut continuer sur
okay. le petit rituel.
Ouais.
Très bien. La première question de ce rituel, c'est un moment où voilà, tu vas te tourner vers toi-même, et c'est si tu étais face à Clara il y a un an et demi, 2 ans, qui démarre tout juste son aventure indépendante, donc premier jour de ton nouveau cabinet, c'est quoi le conseil que tu voudrais donner à Clara du passé?
Je pense que le conseil, alors bah, c'est vraiment, je pense que c'est les clients qui sont les mieux à même de nous permettre de développer au mieux notre activité. Je m'explique, c'est pas parce qu'on a plus de clients qu'on développe au mieux, mais c'est plus on écoute nos clients, plus on comprend, c'est surtout avoir de la curiosité vis-à-vis de nos clients. Donc c'est-à-dire que chaque client est unique, chaque secteur d'activité est unique, chaque problématique est unique, et plus on écoute nos clients, plus on est à même de se mettre à leur place, ouais. de comprendre leurs besoins, qu'on va être à même de pouvoir offrir les meilleures offres de services. Alors, bon, moi, je le vois par mon expérience, c'est que souvent, on a, en étant, par exemple, d'un point de vue juridique, c'est des choses qui sont quand même souvent abstraites, obscures, et lorsqu'on s'adresse à des gens qui ont, eux, la tête dans le guidon dans le cadre de leurs activités, ils ont pas envie de parler de juridique, ils ont pas envie de se, voilà. Et donc, en fait, plus on se met à la place de notre client et qu'on leur apporte de la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que, bah, voilà, ils ont envie de se concentrer sur leur activité, avoir la certitude que, à côté de ça, ils protègent bien leur activité et qu'ils sont accompagnés, et que ça leur convient, bah, c'est la meilleure des choses qu'on puisse proposer.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au mieux. C'est de vraiment m'imprégner de chaque secteur d'activité, de chaque client, de chaque personnalité aussi, pour pouvoir proposer vraiment des offres de services qui soient pas uniquement que packagées et automatisées, mais vraiment adaptées en fonction des besoins et des souhaits de chacun.
Ouais. Du coup, ce que j'entends que tu dirais à ta version de toi du passé, c'est sois hyper curieuse de chaque personne qui fait partie de ta clientèle, pose-lui des questions, imprègne-toi de son monde pour sortir un peu de toi, ton monde, ton jargon, ton expertise, pour aller plus vers eux, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, tu sais qu'on fait cet exercice là pour travailler sur son persona,
ouais.
Il y a la notion d'empathie qui revient
Grave.
Souvent. Et c'est vrai que cette empathie, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et par exemple, moi, parfois, je vais me retrouver face à un client qui a juste une envie, c'est de mettre un terme à, s'il est face à un différent, de mettre un terme au plus vite à ce différent, mais peu importe, même s'il serait prêt à dépenser des sommes et des sommes,
ouais.
versus quelqu'un qui est vraiment le couteau sous la gorge d'un point de vue financier, et lui, au contraire, il faut qu'il essaye de se défendre à tout prix. Ça dépend vraiment de, et chaque cas de figure est différent. Et donc, ça
ouais.
fait effectivement, voilà, se mettre à la place de chacun pour comprendre et pour proposer vraiment, bah, la solution la plus adaptée.
Ouais. Et la
qui n'est pas uniquement que juridique.
Ouais, exactement. L'offre, en tout cas, qui va mieux coller à la réalité de la personne en face de nous.
C'est
quoi.
Ça.
La question suivante, pareil, on est encore sur ce que tu as vécu jusque maintenant dans ton aventure entrepreneuriale, c'est, selon toi, ce serait quoi la plus grosse difficulté à laquelle tu as dû faire face, et comment est-ce que tu l'as dépassée?
Alors la plus grosse difficulté, je pense que c'est démontrer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de nos offres de services, parce que comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, bah, pour beaucoup, voir un avocat ou en tout cas un spécialiste du droit, c'est des coûts, c'est des investissements, on n'a pas envie de se plonger là-dedans, c'est, on verra plus tard, uniquement lorsqu'il y a des problématiques. Donc c'est par définition, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, c'est qu'il n'a pas envie de venir me voir, ce qui est normal. Il n'a pas envie de dépenser de l'argent. Donc, en fait, par définition, sauf si on est sur un très gros projet et que là, voilà, on sait qu'il y a des pertes de perspective, mais c'est qu'on part du principe que c'est quelque chose qui, c'est un peu douloureux quand même.
Ouais.
De parler de droits, d'investir pour, même pour se défendre. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, mais déjà, on m'attaque. Il faut que je me défende. Je comprends pas pourquoi. En plus, il faut que je paye des frais d'avocat pour me défendre. Donc, en fait, c'est ça la difficulté. C'est je suis prestataire de service. Donc, il faut quand même que je gagne bien ma vie.
Bien sûr.
De l'autre, c'est de montrer la valeur ajoutée et, voilà, donc il y a tout un travail de pédagogie par rapport à ça. Et comment je l'ai, en tout cas, j'ai réussi à la dépasser. Je pense que c'est vraiment par rapport à tous les efforts de communication que je peux réaliser pour, ça en fait partie, par exemple, ce podcast, pour essayer de sensibiliser de les gens et de leur faire comprendre que le juridique, c'est un partenaire, on va dire. Et pas uniquement, voilà, ne pas être réfractaire uniquement à ces problématiques.
Et c'est vrai que ça, c'est un sujet en fonction de notre métier, de notre secteur et de l'espèce d'héritage culturel et commun de comment on voit ce secteur ou ce métier. Pour toi, sur le métier d'avocat et le droit, c'est vrai qu'il y a une sorte de conscience commune de « oh là là, j'ai vraiment pas envie, quoi ». Et quand t'as dit ça, les gens viennent me voir et ils ont pas envie de venir me voir. Et une petite partie de moi qui était en mode « oh putain, ça doit être tellement dur ». Parce que moi, je suis ravi parce que les gens, quand ils viennent pour travailler avec moi et avec nous, avec l'entreprise, en général, c'est une super nouvelle, tu vois. Ils sont trop heureux d'investir en eux, dans un accompagnement. C'est un moment de joie, tu vois. Et du coup, je me dis, oh, ça doit pas être évident que ce soit pas un moment de joie.
Bon, après, je te rassure, c'est pas tous les, tous les cas de figure.
Parce que
tu vois, typiquement, qu'on a des beaux projets, qu'on a vraiment envie de se développer et savoir, bon, ça, c'est plutôt, voilà, un accompagnement qui est, mais c'est vrai que par définition, à l'origine, quand on vient voir un avocat, c'est lorsqu'on a une situation de conflit. Donc, c'est soit parce qu'on est victime d'un préjudice, soit parce qu'on se fait attaquer. Donc,
En tout cas, je veux redire de façon publique que quand on a travaillé ensemble, ça m'a créé beaucoup de joie avant, pendant et après. Parce que justement, je savais que, OK, c'est bon, ce contrat de 15 pages, je peux déléguer sa lecture précise et sa réécriture. Et j'ai pas besoin de mettre mon nez dedans, donc c'était très joyeux.
Merci.
La question suivante, maintenant, elle se tourne un peu vers ton futur. Et c'est la question de, c'est quoi en ce moment ton objectif le plus précieux, celui après lequel tu cours, et pourquoi est-ce que tu cours après cet objectif? Qu'est-ce que tu cherches vraiment?
Mon objectif le plus précieux, je pense que c'est de poursuivre, continuer à développer mon cabinet, continuer à le développer comme je le fais actuellement, continuer à m'ouvrir aussi à d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident. Alors après, c'est une bonne chose parce que ça fonctionne beaucoup par le bouche-à-oreille. Donc nécessairement, par le bouche-à-oreille, c'est souvent des gens de même secteur qui viennent me voir.
Ouais.
Mais moi, ce qui fait la richesse aussi, surtout de ma discipline, c'est que, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il y a tout, ça touche tout secteur. Et c'est ce que j'apprécie. Donc, c'est vraiment continuer à collaborer avec, quels que soient les secteurs, quelle que soit de la typologie de clientèle aussi, qu'on soit un créateur à son compte, qu'on soit une grosse société, qu'on soit un artiste, peu importe. Donc, c'est vraiment, de continuer à pouvoir accompagner de telle manière tout un tas de clients sur une multiplicité, de problématiques.
Pourquoi c'est important pour toi, cette diversité? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui se spécialisent dans un secteur, tu vois. Et je le vois même quand tu parles, j'ai l'impression que c'est un truc qui, justement, toi, te crée de la joie. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de toucher à plein de secteurs?
Alors, parce qu'en fait, il y a une distinction entre je suis spécialisée, donc je fais que de la propriété intellectuelle. Tu vois, par exemple, si j'ai des clients qui viennent me voir pour, une problématique, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant, je vais monter telle société, qu'est-ce que je dois faire?
Okay.
Moi, je ne fais pas de droit des affaires, donc je peux pas conseiller des gens sur quel type de société adopter.
Ouais.
Et à cet effet, je travaille avec des partenaires, enfin des consoeurs notamment, qui sont strictement spécialisés sur ce point de vue. Donc moi, c'est vraiment, je souhaite me réduire uniquement au scope de protéger sa marque, protéger ses créations, protéger ses innovations.
Ouais.
Je continue régulièrement à me former, je m'adapte aussi aux évolutions. Tu vois, je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, j'ai des problématiques aussi en matière de NFT, etc.
Donc, tu as une expertise thématique, quoi.
Thématique, mais à côté de ça, ce qui fait la richesse aussi, c'est de pouvoir parler à tout secteur. Parce que tu parles, par exemple, au secteur de la santé, ce n'est absolument pas les mêmes problématiques que parler à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la mode.
Ouais.
Pourtant, d'un point de vue juridique, ce sont les mêmes articles du code de la propriété intellectuelle.
Ouais.
Mais c'est pas les mêmes impressions de dossier, il y a pas la même sensibilité de chacun. Et c'est ça qui est plutôt sympa, parce que sinon, moi, ce que je craindrais, en tout cas, ce que je pourrais craindre, c'est peut-être d'arriver dans une routine où finalement, bah, tu refais des, voilà, tu travailles de manière un peu automatisée pour répondre aux besoins de tes clients. Mmh. Et t'as moins cette notion de, il faut te creuser les méninges pour trouver une solution qui est vraiment adaptée, pour découvrir aussi des nouveaux secteurs d'activité que tu connais pas nécessairement. Et voilà. Ouais. C'est ça qui est vraiment enrichissant.
Du coup, ça nourrit quelque part un besoin de nouveauté, et de challenge intellectuel aussi.
Ouais, c'est ça. Ah oui, complètement. Okay. Ouais.
Trop intéressant. J'aime bien poser cette question, tu vois, parce que les objectifs qu'on se fixe et les envies qu'on a de développement, il y a toujours des choses qui se cachent derrière, tu vois. C'est pas pour autant qu'on décide, je vais me spécialiser dans un secteur plutôt qu'un autre ou pas. Enfin, voilà, il y a des trucs humains qui se passent, donc j'aime bien poser cette question. et la dernière de ce petit rituel, c'est cette fois-ci, on se tourne vers les personnes qui nous écoutent et tu as la propriété de ce podcast pendant un bref instant. Et la proposition, c'est que tu poses une question aux gens qui nous écoutent. Donc, s'il y avait une question que tu voulais poser à tous les freelances et toutes les indépendantes qui nous écoutent pour continuer de réfléchir après notre conversation, quelle question tu as envie de leur poser?
Quelle question j'ai envie de leur poser? Qu'est-ce qui... C'est dur comme question.
Tu peux prendre le temps de réfléchir, t'en fais pas.
Tous tes invités prennent leur temps pour répondre, mais... Bah, qu'est-ce qui vous émeut à chacun dans votre travail et quel est votre, pourquoi vous faites votre travail et quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi finalement vous avez envie de protéger votre travail et vous différencier sur le marché? Et finalement, c'est ça qui pourrait être protégé d'un point de vue juridique et vous permettra vraiment de vous distinguer de la concurrence.
Ouais. Du coup, j'entends que la porte d'entrée, c'est qu'est-ce qui vous crée de l'émotion dans ce que vous faites? Et certainement, c'est cette chose-là qui a de la valeur ajoutée et qu'on peut protéger.
C'est ça.
Trop intéressant. Je vais me creuser les méninges aussi. Si les personnes qui nous écoutent veulent te répondre, te donner leur réponse ou rentrer en contact avec toi, découvrir ton travail, à quel endroit est-ce que je les renvoie, Clara?
Alors, tu peux les renvoyer donc sur mon site internet.
Yes. C'est claraviguier.fr, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tu peux les renvoyer sur LinkedIn aussi.
Ok.
LinkedIn, je vous invite à me suivre parce que je communique très régulièrement, même pas mal d'actu d'un point de vue juridique avec des cas concrets, etc. Et également Instagram.
Ok. Et tu as aussi ton podcast qui s'appelle Copie Conforme où tu fais justement de la pédagogie sur tous ces sujets.
C'est ça. J'invite des personnalités qui soit proposent des offres de services ou des produits ou qui ont une activité qui est vraiment pleinement imprégnée, on va dire, dans la création, dans la culture. Pour discuter avec eux de leurs activités et confronter un peu moi mon expertise très juridique avec la leur qui est beaucoup plus opérationnelle et de terrain.
Trop intéressant, super. Bah, tous les liens seront dans la description pour les personnes qui nous écoutent et un très grand merci pour cette chouette conversation.
Merci à toi.
J'ai appris plein de choses, c'était trop cool.
Merci.
Prends soin de toi. Bye.
Merci. Au revoir.
J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés. Bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.